Génération Prestart. Génération Prestart. Try again. Try again.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes bien sur M57 Radio. On est parti pour un nouvel épisode de Try Again. Aujourd'hui, un épisode vraiment exceptionnel avec comme grande thématique un jeu sublime, The Legend of Zelda: A Link to the Past sur Super Nintendo, présenté par Ellie. Coucou Ellie.
Salut à tous et à toutes.
Tu vas bien? Pleine forme?
Ah oui, très bien, très bien.
Parfait, parfait. Il est motivé, il est remonté à fond à bloc. On aura tout d'abord dans Insert Coins, Nelly qui va nous parler de quoi, Ellie?
Je vais parler des princesses de jeux vidéo et évidemment en particulier la princesse Zelda.
Sinon, bien ou bien?
Bien ou bien, super, contente de vous retrouver.
Ah parfait. Et enfin, nous aurons Lionel qui nous parlera dans Reloaded de...
Donc d'un petit débat qui a lieu depuis maintenant un petit moment sur la chronologie des épisodes de Zelda, donc de The Legend of Zelda.
Parfait, un petit débat, ça me plaît bien, ça s'annonce vraiment très fort. Bah écoutez, moi je vous propose que pour commencer tout ça, on écoute une petite musique tranquille, qui rappelle à tout le monde ce que c'est que le jeu. Donc on va écouter le thème du jeu principal dans le monde de la lumière avec en plus un petit bonus. Le titre, l'introduction du jeu. Donc là, ça parlera bien aux gens qui ont fait ça à l'époque.
M57 Radio.
Try again. Try again. Vous êtes toujours sur M57 Radio dans Try Again, l'émission qui parle de jeux vidéo à notre manière. Et tout de suite, c'est Nelly qui va nous présenter un joli sujet.
Ouais, alors aujourd'hui, c'est un petit coup de gueule par rapport à un plutôt plus beau mec qui dévalorise un petit peu les princesses dans le jeu vidéo et en particulier la princesse Zelda et qui ont beaucoup demandé, on comprend pas pourquoi c'est The Legend of Zelda alors que c'est Link qui se tape tout. Alors aujourd'hui, j'ai envie de revaloriser l'image des princesses et en particulier celle de Zelda parce qu'elle est loin d'être tout simplement une godiche. Alors pour remettre un petit peu dans le bain, pour ceux qui connaissent un peu et pour ceux qui connaissent pas, Zelda, elle est fille d'Altus. Elle fait partie de la famille royale d'Hyrule, donc le lieu où se passent en général les aventures.
Généralement.
Et voilà. Et donc pour moi, elle est loin d'être godiche puisqu'elle grandit dans l'idée toujours de protéger son peuple coûte que coûte. Donc elle est pacifiste dans l'âme, ok, mais elle va quand même tout faire. C'est quand même un acte courageux. À chaque fois, elle va essayer de protéger son peuple. Elle a à l'intérieur d'elle inscrit le fragment de la sagesse qui va de pair avec celui de Link qui est le fragment du courage. Donc je pense que déjà à la base, si elle a une telle importance, un tel fragment, c'est que voilà, c'est pas une simple princesse godiche. Alors je sais, elle fait partie d'une famille royale, donc forcément elle est servie, elle a été éduquée dans ce sens-là, servie, capricieuse, etc. Mais je rappelle quand même que dans n'importe quoi, dans les jeux, dans les films, dans les série, que ce soit une fille ou un garçon, à partir du moment où on fait partie d'une famille royale, c'est logique d'être un peu précieux, on va dire. Voilà. Donc c'est pas typique aux princesses. Mais, en plus, la princesse Zelda, non seulement je trouve qu'elle est courageuse, parce qu'elle va protéger son peuple, elle est sage, elle a le fragment de la sagesse, elle va faire preuve de sagesse à plus d'une reprise, puisque c'est quand même elle qui brise la triforce, hein, donc
c'est elle qui la
fragment.
Brise, c'est pas les
sept sages. C'est elle qui décide, qui a l'idée de briser la triforce en 8 fragments et de les éparpiller un petit peu partout pour que les grands méchants du style Ganondorf rament un petit peu, galèrent un petit peu à avoir la triforce.
Ah, ça dépend des versions. Des fois, il y a pas que 8 fragments. Tu dis 8 fragments, c'est ça ?
Ouais, 8.
Ça dépend des versions.
Alors, en tout cas, ne serait-ce qu'elle a le fragment de la sagesse.
Tout à fait.
Et que les fragments sont brisés et que ça, c'est quand même un signe assez futé, je trouve, que de prendre le risque de briser des fragments pour rendre la tâche de l'ennemi plus facile. Alors ok, elle est toujours instigatrice des problèmes, justement parce que voilà, faut protéger les fragments, mais quand même, elle met son peuple un peu entre guillemets dans une sécurité un petit peu plus sympathique. Et puis elle a la sagesse aussi de se dire je suis sage, je suis intelligente, mais évidemment il manque peut-être un petit peu la force, et elle choisit pas n'importe qui pour l'aider. Elle envoie très 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 souvent des messages par l'esprit à notre cher héros Link, et elle choisit pas n'importe qui. Donc ça aussi, c'est une preuve d'intelligence et c'est une contre-preuve de la princesse godiche, capricieuse, etc.
Ouais, mais quand tu dis qu'elle choisit la force c'est Ganondorf, c'est le méchant.
La force, non, pas la force. La force, le courage, papa. Et Link, il est fort aussi, c'est pas parce qu'on est petit qu'on n'est pas fort.
Moi,
il arrive à trouver sa force.
J'ajouterais quand même qu'elle fait appel à Link, mais dans un premier temps, c'est à son oncle, on en reparlera tout à l'heure.
Ah, c'est vrai. Elle sait, on va dire qu'elle sait choisir souvent les gens qui vont l'accompagner. Il y a les nourrices aussi, hein. Souvent il y a les nourrices qui ont un jeu protecteur, un rôle protecteur, et qui vont aussi avoir des petits rôles dans les aventures. Donc pour moi, c'est une princesse qui est loin d'être timorée, qui est loin d'être maniérée, et des fois même elle fait partie de l'action. Pour ceux qui connaissent un peu le jeu, alors j'ai pas envie de trop spoiler les histoires, mais bon, elle est quand même en lien avec un certain personnage de Sheik dans Ocarina of Time, qui lutte, qui ruse, qui s'enfuit, qui combat, etc. Donc pour ceux qui savent, voilà, je veux dire, je vois pas comment on peut dire que Zelda, elle fait pas partie de l'aventure. Dans Twilight Princess, elle va quand même se rendre à Xanto pour éviter la mort de nombreux sujets dans lesquels elle se met en danger, mais c'est en contrepartie de la paix et de la sécurité pour les sujets de son peuple. Elle se bat aussi à plusieurs reprises grâce aux flèches de lumière, et on la voit aussi se battre à l'épée dans Twilight Princess, dans Wind Waker, il me semble.
Dans Wind Waker.
Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est que dans les Zelda, il y a quand même une particularité, c'est que c'est pas toujours, c'est les mêmes noms, enfin souvent c'est les mêmes noms, mais pas forcément toujours les personnages. On va dire que Zelda, il va y avoir une sorte de réincarnation de génération en génération dans les filles de la famille du royaume d'Hyrule, et donc pas toujours la même Zelda ou le même personnage. Donc dans Wind Waker, preuve en est encore plus qu'elle n'est pas godiche, c'est que le personnage qui la représente est quand même capitaine de pirates.
Exact.
Donc n'allez pas me dire quand même qu'elle est godiche. Elle va peut-être le devenir après, en sachant qu'elle est de la lignée Zelda, je sais pas, mais en tout cas, elle l'est pas. Elle se bat, elle est intelligente, elle est sage, elle a tout pour elle. Et dans Spirit Sack, en plus, elle a de la magie, et puis son esprit est aussi très fort, puisque c'est par son esprit, par la télépathie, etc., qu'elle va nous aider dans l'aventure. Donc là, elle a vraiment un rôle quand même d'aide pour Link. Elle fait pas rien.
Elle peut prendre la possession des spectres qui aident Link à avancer dans l'aventure.
Voilà, tout à fait. Donc, moi, je trouve que c'est un peu facile de dire que ce jeu-là, il porte le nom de Zelda, mais qu'on sait pas trop pourquoi, comment, etc., parce qu'elle a quand même, je trouve, des sacrés rôles. Et puis, c'est elle qui, souvent, est instigatrice des problèmes, des soucis. Donc,
bon, il y a quand même des épisodes où elle fait soit des apparitions très anecdotiques, soit pas du tout d'apparition.
Je pense que tu penses aux mêmes épisodes que moi. Majora's Mask sur N64, elle est pas là du tout.
Link Awakening sur Game Boy,
où en fait elle est pas là non plus. Mais bon, il y a Marine qui ressemble fortement.
Voilà, c'est ça.
Que Zelda, enfin que Link confond même avec Zelda. Voilà, au début
exactement. C'est des espèces de réincarnation, de génération, etc. Et moi, je voulais rajouter que bah, par rapport à Peach, alors à la limite, on peut critiquer un petit peu Peach, parce que si on prend les deux personnages dans Smash Bros, on voit bien que Zelda, elle se bat, elle a les deux personnages. Peach, elle attaque au cœur.
Parfait.
Attaque au Toad.
Tout de suite, on va s'écouter le thème du château d'Hyrule, toujours composé par Konji Kondo, et on se retrouve tout de suite après.
N57 Radio.
Alors, je vais enchaîner la suite en vous parlant de la rubrique Versus Mode, avec donc le jeu principal aujourd'hui, c'est The Legend of Zelda A Link to the Past. Donc, le jeu sur Super Nintendo, édité et programmé par Nintendo. Le jeu est sorti en novembre 91 au Japon, en septembre 92 en Europe. Donc, on a toujours un petit peu de retard par rapport au japonais, hein, ça c'est une habitude.
Traduction.
Ouais. Donc, on se rend compte aussi que c'est un jeu qui va avoir 18 ans, là.
Il va être majeur, enfin.
La majorité, enfin.
Il sera plus jailbait.
Bon, ça veut pas dire que c'est un jeu 18+, hein, attention. Donc, c'est un jeu d'aventure-action. Certains disent RPG, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord.
Je ne serais pas d'accord avec ça.
Pas de problème.
Moi non plus.
Attends, aventure-action, ça c'est sûr. Hein.
Ça, c'est certain.
Donc, c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué. Et dans mon enfance, je l'avais acheté neuf à l'époque. Il m'avait coûté 449 francs à l'époque. Ça fait dans les environs de 68 euros.
Merci pour la petite conversion, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est des francs, peut-être.
Tu ne veux pas convertir en tarif brocante, parce que maintenant, vu qu'on le trouve plus que là.
C'est pas vrai, ça.
Oh.
En magasin, moi, je l'ai vu l'autre jour.
Oui, mais j'ai vu l'autre jour aussi, magasin d'occasion.
C'est vrai.
Ouais, tout dépend de l'état après, s'il est complet, s'il manque la notice, tout ça. Bon. C'est quand même un jeu qui s'est vendu à plus de 4,6 millions d'exemplaires à travers le monde, ce qui est quand même une très bonne performance. La capacité de la cartouche, c'est une cartouche 8 mégabits, ce qui correspond à peu près à 1 méga. C'est pour donner une ordre d'idée.
Ouais, bon, ça me dit rien, mais c'est pas grave.
Ça parlera à certains geeks.
Voilà. La bande originale est composée par Koji Kondo. Donc on entend la musique en fond. C'est lui qui l'a composée. Le concepteur, c'est Shigeru Miyamoto.
Avec le R roulé, comme tu l'as bien dit.
À la japonaise.
Si tu l'aurais fait à la japonaise, tu aurais inversé, parce qu'on ne dit pas Koji Kondo, mais Kondo Koji.
Ah, mais je suis pas un grand spécialiste non plus. Donc le programmeur principal, c'est Yasunari Sojejima. Voilà, bon, sans trop l'accent. Le nom du jeu, donc, c'est Zelda A Link to the Past, c'est un lien avec le passé. Le nom japonais, c'est Zeruda no Densetsu Kamigami no Torafotsu.
Ouais, j'aime ça.
Voilà. Pas beaucoup de gens le savent, mais bon, c'est toujours bien de le signaler.
Oui.
La première idée du nom du jeu, c'était la Triforce des Dieux. Donc en japonais, ça donne Kamigami no Triforce.
Mais tu te fais un trip avec le japonais aujourd'hui.
Il va faire des études de japonais, Ellie, bientôt.
Non, je vais arrêter avec les langues. Je vais un petit peu raconter maintenant l'histoire du jeu, le scénario. Alors j'ai tiré un petit peu ça de la notice, j'ai fait un petit peu plus court pour que ça prenne pas 5 minutes non plus. Alors, je vais vous lire.
Fais-nous rêver.
Selon les parchemins iliens, les dieux mythiques descendirent d'une lointaine nébuleuse sur le monde et y créèrent l'ordre et la vie. Lorsque les dieux eurent terminé avec leur œuvre, ils quittèrent le monde, mais non sans créer un symbole de leur force. Un triangle d'or, connu sous le nom de Triforce. Elle donnerait la force, le savoir, ainsi que le courage à celui qui la retrouverait. Car les dieux, dans leur grande sagesse, la cachèrent sur les terres d'Hyrule. Beaucoup ont cherché à découvrir cette Triforce qui exauce les désirs des hommes. Cette quête effrénée pour la Triforce se transforma bientôt en une telle soif de pouvoir qu'il conduisit à une effusion de sang. Un jour, un gang de voleurs, usant de la magie noire, ouvrit, presque par accident, la porte de la Terre d'Or, de la Triforce. Ce pays ne ressemblait à aucun autre. Ce roi des voleurs s'appelait Ganondorf Dragmir. Mais il est plus connu sous le nom de Mandrake Ganon. Dès lors que le sorcier en fait son vœu, une force diabolique commença à se répandre sur la Terre d'Or, et des hommes avides y furent attirés pour faire partie d'une armée de Ganon. Le roi d'Hyrule envoya chercher les 7 sages, ainsi que les chevaliers d'Hyrule, et leur ordonna de sceller l'entrée de la Terre d'Or, tandis que les habitants d'Hyrule forgèrent une épée résistante à la magie. Cette arme est connue sous le nom d'Excalibur. C'est alors que la peste et la sécheresse ravagèrent le pays. Un seul homme semblait parvenir à réprimer les désastres avec une forme de magie inconnue auparavant. Pour remercier Aghanim, le roi le promu chef conseiller et les masses louèrent ce héros. La paix était revenue, du moins dans les apparences. Une nuit, la voix d'une jeune fille vous tire de votre sommeil. Elle vous supplie par télépathie.
Au secours.
Un petit peu dans ce genre-là, donc la télépathie dont on parlait avant. Vous sautez de votre lit sans savoir si la voix provient d'un rêve ou surgit de la réalité. Vous vous rendez alors compte que votre oncle sort de la maison, harnaché pour le combat. C'est désormais à votre tour d'agir pour trouver des réponses à ces questions. Et c'est sur ce que le jeu commence. Donc, en fait, on dit souvent Zelda 3, c'est un peu exagéré. Enfin, c'est un peu pas exagéré, mais il y a eu 2 versions qui sont sorties sur NES, la console 8 bits de Nintendo, auparavant.
C'était celui-là avec le Famicom Disk System où t'avais une sauvegarde avec le CD, la normale, c'est ça ?
Non, je parlais des 2 versions normales, les Zelda 1 et 2.
Ah oui, d'accord, mais moi je te parle de Zelda 1 qui a eu 2 éditions différentes sur Famicom. Donc c'est pour ça que le fait de dire que c'est le 3e, c'est pas forcément vrai pour les Japonais.
Ouais, on peut compter comme ça aussi. Donc en fait, nous on résume souvent par Zelda 3 parce que c'est le premier sur Super Nintendo, mais nulle part dans le titre il y a marqué Zelda 3, c'est The Legend of Zelda, A Link to the Past.
Mais ils ont jamais été vraiment numérotés en fait, les Zelda, c'est ça le truc.
Voilà, donc c'est pas choquant non plus de dire que c'est le 3e. Donc les inspirations du jeu, c'est un jeu qui ressemble beaucoup à la première version, mais adapté sur une console 16 bits. Donc avec des meilleurs graphismes, du son plus réaliste, et tout ce qui va avec. Donc il y a beaucoup de la reprise du concept, un gameplay qui ressemble pas mal, et on retrouve cette alternance entre les palais et le monde extérieur où on peut se balader. Et on retrouve également certains ennemis comme les Octoroks, les Like-Like, les squelettes et plein d'autres.
Alors ça ressemble à quoi tout ça?
Parce que là, il y a des gens qui savent pas ce que c'est avec les noms des ennemis.
Ah, c'est pas parlant pour tout le monde. Bon, les squelettes, tout le monde sait ce que c'est. On les identifie facilement.
Les quoi, les?
Les squelettes.
Oui, les squelettes, oui. Ah oui, d'accord. Ah, je crois qu'il va passer au suivant.
Les octoroks. Alors, c'est des bêtes vraiment qu'on retrouve dans quasiment tous les Zelda. C'est une petite bête orange, en forme, si vous voulez, de boule avec des pattes de côté. Une espèce de ventouse qui leur sert de bouche. Et le plus souvent, elles lancent des cacahuètes ou des petits projectiles.
Ah oui, c'est les petits poulpes. Là, les
ça ressemble un peu
poulpes.
À Bordeaux, en fait, la description, là, en gros.
Les petits poulpes qui lancent des espèces de boules.
Ça ressemble. Je ne sais pas exactement ce que c'est.
Oui, parce qu'il faut préciser quand même que dans ces jeux-là, le monde d'Hyrule, il est magique quand même. Quoi. Donc les ennemis qu'on rencontre, ils ont des formes un peu particulières. Quoi.
Oui, de toute façon, il y en a d'autres, comme les like-like. Qui, eux, aiment bien engloutir notre héros, Link. Ou alors, certains ont une langue.
Ça ressemble un peu à du pudding, non? Les like-like, en gros.
C'est un petit peu ça, comme un vol au vent.
C'est ceux qui dépoilent, non? C'est pas ceux qui, quand ils nous recrachent, ils nous manquent une arme ou...
Si, c'est ça. T'as vu où qu'ils ont des poils?
Mais non, mais...
Ils ont une grande langue comme un crapaud, mais
Je retiens l'émission, la dernière émission, où vous m'avez appris que quand on démarrait avec rien, on était tout nus.
Ah, c'est vrai,
Exact. Shigeru Miyamoto s'est basé sur des expériences personnelles qu'il avait de son enfance, quand il sortait de chez lui, qu'il était assez jeune, mais qu'il se baladait entre les montagnes, les bois, les grottes. Donc tout ça, c'est des éléments qu'il réintègre au jeu.
C'est un grand classique hein, de Miyamoto, d'intégrer des choses comme ça, de son passé, de son existence, de son vécu au jeu, en fait. Quoi.
Et c'est aussi ce qui a fait un petit peu le succès du jeu, parce que les gens se retrouvent là-dedans. Moi, par exemple, dans mes expériences personnelles, je me souviens que j'ai eu le jeu, j'étais quoi, en 6e, et que entre midi et 2, je rentrais chez moi, il n'y avait personne, alors j'allumais rapidement le jeu après avoir mangé.
C'est comme ça que tu restes aussi svelte, en fait.
Manger rapidement.
Le régime geek.
Et je me souvenais quand j'étais dans la forteresse et que je sortais, bon, c'était sous la pluie, on était vraiment bien dedans. C'était vraiment très sympathique.
Tu allais à l'école à l'heure après, j'espère?
Oui, je suis jamais en retard. Voyons. Donc, dans ce monde, on retrouve une lutte manichéenne du monde des ténèbres contre le monde de la lumière. En fait, c'est un petit peu le bien contre le mal. Malgré une ambiance bon enfant, on retrouve l'oncle qui sort de la maison. On le retrouve à la fin du jeu. On s'aperçoit qu'il meurt pas, parce qu'on savait pas trop à un moment qu'on récupère son arme. On retrouve donc le personnage de Link qui est tout kawaii, tout mignon.
Il est encore tout jeune, en fait. Ouais. Quoi.
Il représente le jeune joueur. Il est frêle, il maîtrise pas encore bien son monde, mais de mieux en mieux, le monde
c'est
extérieur.
C'est ça qui est excellent, je trouve, dans ces jeux-là, c'est que dans cette série-là, c'est que c'est tout mignon, tout coloré, tout machin, et en même temps, on arrive aussi de temps en temps dans des zones beaucoup plus sombres, beaucoup plus dures, beaucoup plus rudes à passer, et le contraste des deux est quand même bien réussi, je trouve.
Quand on arrive à passer ça en étant petit, on se dit, on va réussir toutes les épreuves dans le monde réel, quoi. Ça donne confiance.
C'est ce que toi t'as ressenti?
Voilà, on y arrive.
Ah, je comprends mieux maintenant les petits problèmes de Delhi.
Et on découvre la vie ici, c'est beau, quoi.
Donc pour en revenir au jeu, c'est un jeu open world. On dit souvent dans les jeux modernes, oh, on peut aller là où on veut, comme on veut. Bon, déjà à l'époque, on pouvait se balader un petit peu partout. Il y a certaines choses qu'on pouvait pas faire dans tous les ordres, mais bon, voilà.
Bah écoute, tu nous parleras de ça dans la deuxième partie du Versus Mode. Entre temps, on va s'écouter une petite musique, vraiment toute petite, un petit medley des musiques de combat du jeu. Donc c'est toujours composé par Kondo Koji. Et ça dépote, ça bouge bien. A tout de suite les amis. Thank you.
Try again. Try
again. Vous êtes toujours sur M57 Radio, à l'écoute de Try Again, l'émission sur les jeux vidéo. On est dans la deuxième partie du Versus Mode, où on parle toujours de The Legend of Zelda A Link to the Past sur Super NES. Et tout de suite, je crois que Nelly a quelque chose à nous dire avant que j'en parole à Ellie.
Ellie, il m'a tellement ému avec ses souvenirs d'enfant. Je pense que je vais lui faire un cosplay en papier crépon de Link s'il veut.
Encore un. Le retour du cosplay papier crépon.
Ah, c'est très gentil.
J'en ai des bons souvenirs.
J'avais déjà eu un pour Lionel. Hein.
Ouais.
Alors moi j'aimerais juste faire une petite remarque sur ce qu'il a dit avant quand il rentrait chez lui pour jouer entre midi et deux. Je vais vous faire un aveu. Je n'avais jamais dit ça à personne. Ça, c'est vrai. Mais en plus, ça rentre dans la thématique d'aujourd'hui. À l'époque, pour terminer le jeu, j'ai séché les cours.
Tu nous feras trois pater et quatre Ave Maria en pénitence.
Mais bon, ça valait le coup quand même.
Ah ouais.
C'est vraiment un jeu de qualité.
J'ai séché qu'une demi-journée, mais j'ai quand même séché les cours pour aller jouer.
Ah, c'est du joli. Déjà,
c'est parce qu'il était dans l'immersion du monde ouvert. Ellie. Ouais,
c'est possible. Je dirais pas quand c'était, mais je l'ai fait.
Bon, il se finit relativement vite quand même. Une dizaine d'heures de jeu. Quand tu connais pas la première fois.
Plus quand tu connais pas et que t'es
sans tout trouver.
En fait, ça dépend si t'as déjà joué à ceux d'avant ou pas. Si tu connais pas du tout la série, tu mettras beaucoup plus de temps. Si tu connais déjà
le système.
En fait, les mécanismes de certaines salles avec d'autres Zelda que t'as joué, peu importe lesquels, tu vas avancer plus rapidement.
Ça, c'est exact, ouais.
Ouais. Donc, j'en étais où ? Je disais, c'est un jeu open world tout à l'heure. Donc, en fait, on distingue aussi dans le jeu deux mondes parallèles. Donc, le monde de la lumière et le monde sombre. Avec des paysages très diversifiés. À chaque fois, il y a pas mal d'endroits différents, par exemple le désert, la forêt, des choses qui ne se ressemblent pas. Donc le jeu n'est pas trop répétitif de ce côté-là. Il y a 12 palais qu'on retrouve, donc des beaux palais, puisqu'ils sont palais, par définition.
Ah. Oh là, il avait préparé celle-là.
Oui, j'avoue, elle était préparée.
Ah, du grand hélice.
Donc un jeu pas trop linéaire, parce qu'on n'est pas forcé de faire les palais dans l'ordre. On peut par exemple faire le palais 5 avant le 3, c'est ça il me semble.
Moi je peux même te donner l'ordre dans lequel je fais les palais dans le monde des ténèbres, c'est assez rigolo.
Dis-nous.
Je fais le 1, je fais le 4, je fais le 3, je fais le 2, je fais le 6, je fais le 5, je fais le 7, je fais le 8.
Bah je vais jouer ça au loto alors.
C'est ce que j'ai, un numéro complémentaire, il est où ?
Non, en fait il y a un intérêt à ça, c'est que tu as plus de facilité à faire les palais. Surtout quand tu inverses le 5 et le 6, hein, parce que dans le 6ème tu gagnes un objet qui te permet de faire un bloc. Et en fait créer ce bloc te permet d'éviter de faire tout un tour dans le 5ème palais. Où tu perds environ un quart d'heure.
En gros, c'est un truc de feignant, quoi.
Ouais, et surtout, t'es stuffé comme un salaud, parce que tu peux récupérer plein d'objets en plus. C'est-à-dire que tu exploites le fait que tu puisses te balader dans le jeu open pour récupérer tout ce que tu peux récupérer, dès que tu peux.
Ah oui, c'est un déjà.
Donc c'est un jeu où on trouve beaucoup d'objets différents, entre le marteau, la flûte, la pelle, on trouve vraiment beaucoup de choses, donc on a beaucoup, beaucoup de possibilités. Même le personnage il peut faire beaucoup de choses, nager sous l'eau, foncer dans les arbres avec les bottes de Pégase pour voir si par exemple il y a un nid d'abeilles ou un rubis à trouver. Dans le jeu on compte pas moins de 24 fragments de cœur à trouver, donc fragments de cœur, dès qu'on en trouve 4 ça fait un cœur en plus, donc plus d'énergie, donc le jeu devient plus facile si on les cherche.
Alors j'ai une question pour toi Ellie, toi qui je le sais tu as fait Zelda 1 et Zelda 2 ou du moins tu y as beaucoup joué.
Oui.
Est-ce que les fragments de cœur existaient déjà les deux premiers?
Bonne question. Oh, ça fait longtemps que je sais.
Parce qu'avant, j'y repensais comme on discutait entre nous d'autres choses et au nombre de fragments de cœur. Et je me demandais si c'est quelque chose qui avait été introduit comme thématique dans cet opus ou si ça existait déjà avant.
Il me semble que ça existait déjà avant. Et chaque fois que tu bats un boss aussi, ça te donne un cœur de plus.
Ça, je suis d'accord.
Oui, un cœur entier.
Un cœur entier, oui. Parce que dans Zelda 2, vu que t'as de l'XP, enfin, t'as de l'XP quand tu tues des ennemis. Je sais pas s'ils en ont mis ou pas, tu vois, vu que t'as pas de cœur à proprement parler, donc faudrait voir dans Zelda 1 en fait, je pense plus.
Ouais, il me semble que dans Zelda 1, oui, il y a ça, il y a l'espèce de triangle qu'on complète à chaque fois.
Bon, à réfléchir.
Ouais, à réfléchir, oui. On trouve aussi une carte en mode 7 dans le jeu, donc le mode 7 de la Super Nintendo qui permet d'étirer, de zoomer, dézoomer facilement. Donc très utile et très spectaculaire pour l'époque. On a aussi la possibilité de prendre des raccourcis entre les tourbillons dans l'eau qui amènent d'un passage à un autre, les téléporteurs qui amènent du monde sombre vers le monde clair. Non, c'est le contraire. Du monde clair vers le monde sombre. Il faut utiliser le miroir pour faire l'inverse.
Exact.
Ah oui, c'est vrai, le petit miroir, oui.
Le miroir que tu peux n'utiliser qu'à une seule fois.
D'ailleurs, quand on utilise le miroir, si je me rappelle bien, il y a des... on arrive au même endroit mais dans l'autre monde.
Exact.
Et il y a des petites choses gentilles du style les petites poules, les petits machins qui se transforment en trucs un peu bizarres dans le monde sombre.
Ah, enfin, les poules deviennent squelettiques.
Ouais. Voilà, c'est ça. Hein. Ouais. Mais, ouais, je me rappelle bien de ça,
les
ça m'avait bien marqué. Ouais.
On trouve aussi la flûte ou alors l'ocarina. Dans le Zelda 1, c'était la flûte.
Tout à fait.
Mais ouais. C'est la même utilité.
Alors, en fait, cette flûte...
Ça, je sais pas, c'est lui qu'il faut poser la question.
Si on, ça nous permet de... À un moment, on peut aussi débloquer l'oiseau. Et avec cette flûte, en chantant le petit air, ça appelle l'oiseau. Et après, ça permet de nous transporter vers certains points dans le monde d'Hyrule.
Dans Zelda 3, oui, mais dans Zelda 1, la flûte, elle faisait quoi?
Il me semble que c'est la même chose.
Oui, il me semble aussi.
D'accord,
ouais.
Ok, alors j'ai rien dit.
Alors, beaucoup de réflexion dans ce jeu. C'est un jeu de réflexion avec des interrupteurs, des blocs à pousser dans un certain ordre, d'une certaine façon. Bon, c'est pas excessivement compliqué. Hein. Je pense que tout le monde peut y arriver.
Ouais, moi, il y a des passages, des fois, je rame. Hein.
C'est vrai que c'est ce que disait Martin tout à l'heure. C'est tout à fait vrai, quoi. C'est qu'on... On a tendance à avoir plus de facilité à faire un Zelda de manière générale. En tout cas, c'est le cas aujourd'hui et pour la plupart des opus. Si on a déjà fait d'autres épisodes auparavant, quoi, parce qu'on retrouve les mêmes mécanismes, des schémas de pensée qui sont un peu identiques d'un Zelda.
Passages, des passages qu'on voit que sur les cartes, des choses
voilà,
comme ça.
Il ouais. y a des petites choses comme ça, on se dit, ah, on arrive dans une pièce, on tombe devant, on bloque devant quelque chose et on se dit, ah, mais ça. Ça me rappelle vaguement un autre épisode, en fait, et du coup, ça donne un peu...
Moi, je sais que la particularité dans les Zelda qui me frappe, maintenant que je connais un peu le système, c'est quand on voit des gros coffres forts dans une pièce et qu'on peut pas y accéder, maintenant, le premier réflexe qu'il faut avoir, c'est de monter l'étage au-dessus dans les palais pour essayer de voir s'il y a pas une zone pour tomber sur le coffre.
Par exemple.
Et ça, au début, quand on sait pas... Enfin, moi, je me rappelle avoir beaucoup, beaucoup ramé à trouver ce système-là.
C'est de la fausse 3D.
Moi, j'aimerais encore revenir sur ce que disait Lionel. Effectivement, quand tu connais pas les concepts de jeu, c'est vachement difficile.
Ouais.
Je me sens que la première fois que j'ai fait un Zelda, c'était celui-là sur Game Boy, et qu'une fois, je suis resté bloqué sur un truc tout bête. Il fallait tirer une flèche sur une statue qui avait un gros œil au centre.
Ah, les yeux, ouais.
Et seulement, c'est quelque chose que tu découvres obligatoirement dans le jeu, enfin, que t'es obligé de faire dans le jeu, mais très tard. Et donc, quand tu fais les autres Zelda, ça paraît logique. C'est le premier truc que tu vas faire, quoi. Tu vas avoir un œil, tu vas tirer une flèche dedans.
Tout à fait.
Pour quelqu'un qui découvre la série, va savoir quoi, qui va bloquer dessus, quoi.
Bah, d'ailleurs, on espère un petit peu, puisque bon, que le schéma sera peut-être rompu dans les prochains opus, parce que c'est vrai qu'à force, il y a une certaine redondance qui fait que bon, pour le joueur chevronné, on va dire, il y a une certaine facilité après presque à faire certains Zelda, certains épisodes. Ce qui n'est pas forcément le cas pour les nouveaux arrivants, on va dire les jeunes qui prennent le jeu en cours, la série en cours de route, quoi. Donc on espère peut-être un peu de renouvellement.
De renouveau, ouais.
En tout cas, ce qu'il y avait de nouveau, c'était les mini-jeux. Par exemple, celui où il vous fait creuser à certains endroits avec la pelle.
Pour un quart de cœur, ouais.
Ouais, le tir à l'arc, le labyrinthe végétal, les différents coffres. Alors, vous payez une somme forfaitaire et on vous dit choisissez entre les trois coffres. Si vous tirez le bon, vous avez beaucoup d'argent. Si vous
c'était
tirez le
mauvais, deux coffres.
Non,
des ténèbres.
Trois.
Monde des ténèbres, pour le quart de cœur, deux coffres.
Et mais il y a un autre où il y en a beaucoup plus, mais c'était trois. Hein.
Deux.
On y reviendra.
Un débat.
Deux.
La réponse au prochain épisode.
Pas deux.
Dans les bois tout au nord. Hein. On retrouve encore la diversité d'ennemis. J'ai pas parlé par exemple des cyclopes, les inox, les snapdragons, les elmazors avec leur carapace sur la tête, les gibdos, c'est les momies, les wizrobes et encore beaucoup d'autres. Avec des boss toujours plus impressionnants. Hein.
Et les boss étaient vraiment monstrueux, quoi. Je veux dire, à l'écran, ils prenaient 7 ou 8 fois la place, donc voilà. Bah écoute, continue avec, de nous épater avec des beaux ennemis comme ça, Ellie.
Ok, il y avait. Je me souviens de quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, c'était le ver géant du palais 3 du monde clair. Donc pour moi, c'était vraiment un des boss les plus difficiles. Il fallait donner un coup d'épée dans sa queue.
Sa tête.
Non, la tête en fait était blindée. Alors dès que tu tapais la tête, ça te repoussait et tu risquais
dents,
de
tomber.
Ah, j'ai confondu avec le boss du palais 2, pardon.
Oui, là il y avait trois verres de sable.
C'est ça.
On va tout dire sur le jeu là. On va passer tous les boss en revue.
On est commande de la lumière, ça va.
Hein, c'est vraiment le troisième du monde de la lumière qui m'avait donné beaucoup de fil à retordre. Hein, parce que nombre de fois il m'a poussé et je tombais dans l'étage du dessous, il fallait tout recommencer.
Il y a une astuce pour pas tomber. Il faut concentrer l'épée. Tu concentres l'épée. Non, d'accord, je vais pas le dire, c'est trop tard.
des fois ça marchait pas.
Fermer les oreilles de temps en temps.
C'est le début du jeu, on peut un peu spoiler le début du jeu, quoi.
Ah, il y avait un autre objet, c'était le filet à papillon. Alors ça, c'est très sympathique
pour c'est marrant.
Attraper les fées, pour donner de l'énergie un petit peu plus tard. Bon, il fallait trouver les bocaux pour mettre la fée dedans.
En gros, les fées redonnent de la vie quand on meurt, c'est ça?
Voilà, elles redonnent 7 cœurs entiers dès qu'on meurt.
Autant dire que moi, je courais après les fées, parce que quand je mourais, je ressuscitais.
Et ça a évité de perdre un continu d'avoir une fée.
Voilà. Il y avait d'autres. Il y avait les abeilles qu'on pouvait attraper avec un papillon. Après, du coup, quand on l'a libérée, elle nous aidait à battre les ennemis.
Et l'abeille d'or, on pouvait même la rendre sans rubis.
Ah, l'abeille d'or.
Ouais. L'abeille d'or, tu la chopes à un endroit avec la canne de glace. Et en vrai, tu vas dans le village, tu affrontes un garde, tu lâches ton abeille, elle va buter le garde et le vendeur, il va te la racheter sans rubis.
Oh, génial. Oh mince, alors si j'avais
ça,
su.
C'est pas très connu. Bon, en même temps, au niveau de l'argent, on arrivait vite à 999 rubis et ça bloquait. Bon.
Oui, on a souvent une limite. Et dans les opus suivants, on a même une limite puisqu'il faut upgrader en fait la bourse pour avoir la possibilité de transporter plus de rubis, quoi.
Ouais, toujours utile. Une autre expérience, c'est la fin du jeu que j'ai trouvé très féerique, avec notamment les musiques qui étaient bien sympathiques.
Les musiques sont toujours formidables, hein. Et je pense que ça doit être encore plus sympathique de les voir orchestrées et tout, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment au niveau musique, j'adore la musique classique et tout ça, et c'est vraiment du haut niveau de composition, quoi.
C'est vrai qu'avec l'évolution des consoles, maintenant, on a des versions carrément orchestrales, en fait, des musiques de Zelda dans les jeux, et c'est vrai que ça prend une sacrée ampleur. Déjà que les musiques originales sont très bien jouées en instrumental par tout un orchestre, c'est quand même assez grandiose.
Puis il y a le génie de faire une musique qui s'enregistre dans la tête sans qu'on s'en rende compte, quoi.
Et
ça, je veux dire, qui colle à l'action, qui colle au paysage, ça c'est quand même fort, quoi. Ouais,
c'est Koji Kondo qui a composé la musique de tous les Zelda, en fait, hein.
Tous les numéros. D'accord.
Jusqu'à présent. Enfin, peut-être pas sur CDI, je sais pas.
Les trois sur CDI, tu veux dire.
Les trois sur CDI, je ne sais pas si c'est lui.
Je crois pas.
Ouais, mais ceux-là, ils n'existent pas, en fait, non plus.
Oui, c'est ce que j'allais dire. CDI, on oublie, non? Ça compte.
Ils sont pas bous, ces épisodes.
Non, ça s'appelle Zelda. C'est peut-être pas les meilleurs, c'est sûr.
Mais... on en parlera peut-être un jour, mais pas aujourd'hui.
Pas aujourd'hui.
Ils valent pas la peine.
Donc, dans la fin du jeu, autre chose que j'avais découvert, c'est qu'il y a un ennemi dans les bois avec des lunettes, une espèce d'asticot. Je dis, mince, j'ai fini tout le jeu et j'ai pas rencontré cet ennemi. Et finalement, un petit peu plus tard, j'ai vu, je crois, dans un magazine, l'astuce qui disait qu'on pouvait utiliser les talismans qu'on trouvait pour battre les ennemis. Et certains talismans, je crois que c'était tremblement de terre, qui transformaient les ennemis.
Cela, poudre magique.
Poudre magique.
Poudre magique.
Pas de talisman. Oh là là, vous avez cherché loin. Moi, j'ai fait le jeu. J'ai pas cherché à faire apparaître des ennemis ou je sais pas quoi.
Je vois totalement de quel ennemi il parle. Et je l'ai aussi fait à l'époque.
Bien vu, Martin. Bien vu.
Mais ça, c'est, tu savais que l'ennemi existait et t'as essayé de le trouver.
Non, en fait, j'ai fini le jeu et dans la fin du jeu,
il te
dans la cinématique,
que t'as l'impression de pas avoir croisé.
Ah d'accord.
C'est une sorte de petit blob vert. Si tu mets un coup d'épée dessus, il t'électrocute.
Oui, exact. Oui, ils existent aussi sur Awakening.
Voilà.
Et
dans la version Game Boy, c'est strictement pareil. Tu mets un coup de poudre magique dessus, tu les transformes et là, tu peux les taper à l'épée sans te faire électrocuter.
D'accord.
Ouais. Et il me semble même que dans Awakening, quand on leur met un coup de poudre, il y a certains qui donnent des messages des développeurs aussi. Il y a des petits blobs. Les espèces de blobs, en fait, je connais pas leur nom exact, mais sur la Awakening, sur certains, si vous amusez à mettre de la poudre magique dessus, normalement ils vous donnent des petits messages des développeurs, des choses qui veulent pas forcément dire grand chose, mais voilà, des petits messages rigolos, quoi.
Bah, continuez, Lee.
Voilà, alors pour moi, c'est quasiment le meilleur jeu de la console avec Street Fighter 2 Turbo, peut-être. Moi,
tu nous en parleras peut-être une autre fois.
Peut-être une autre fois, oui. Pour moi, les deux meilleurs jeux. Et je vais maintenant vous parler d'un petit glitch. Alors, quand vous allez dans le palais de l'Est...
Ah oui. Ouais, vas-y, explique-nous ça quand même, là.
Alors, c'est une sorte de bug, quelque chose qui n'était pas prévu par les programmeurs à la base. Donc, quand on se trouve au palais de l'Est, dans la salle du coffre, parce que dans chaque palais, il y a un grand coffre avec l'objet principal, qui, en l'occurrence, est un arc. Donc, dans cette pièce, si on ouvre le coffre, ça fait apparaître des têtes squelettes d'ennemis qui arrivent, se dirigent vers vous, inéluctablement. Alors, ce qu'il faut faire, c'est se dépêcher d'aller vers le haut de la pièce, monter l'escalier, concentrer l'épée, et au moment où ces têtes arrivent, donner un grand coup d'épée concentré dedans, et ça vous repousse dans le mur. Et à ce moment-là, on passe à travers le mur, et on peut se balader un petit peu comme si c'était sous la carte, et voir toutes les pièces que les programmeurs ont fait. Alors, les couleurs sont différentes, on voit des choses bizarres, pas les uns à côté des autres. Et si on connaît bien le chemin, on peut arriver à la salle de Ganon.
On peut terminer le jeu.
Directement à la fin du jeu, ouais. Et on passe comme ça.
C'est comme ça qu'il y a le record du monde pour terminer le jeu en version glitch qui fait moins de 10 minutes, je crois. Ça fait 5 minutes même pas de jeu pour arriver à la fin du jeu.
Voilà, pas de quoi sécher les cours, hein. On peut le finir en 5 minutes.
Bah ouais.
Ouais, mais on peut le finir à coup de 5 minutes en se servant d'un autre glitch dont tu n'as pas parlé, qui consiste à faire bas et haut simultanément pour traverser les escaliers et arriver directement dans ce monde souterrain.
Ouais, mais il n'y a plus d'intérêt après. Faut découvrir les belles couleurs, les belles musiques. Voilà,
et puis faire haut et bas en même temps avec une manette normale. Pas trop usé, c'est pas facile.
Je dis juste que c'est comme ça que ça fonctionne. Je dis pas plus.
Sur émulateur avec le clavier peut-être. Bon, c'est un jeu qui avait été très apprécié à l'époque, à juste titre.
Et encore aujourd'hui.
Toujours.
Il avait été noté, je crois, dans les 98% et même 99% dans le Super Power. Donc c'est vraiment, c'est une super pub pour ce jeu parce que c'était le mieux noté de tous. Donc.
Bah, il le mérite amplement quand même.
Ouais, ouais, je pense bien. De ce jeu, il y a une réédition qui est sortie sur GBA en 2002 et sur console virtuelle sur le WiiWare en 2007.
Donc, allez jouer.
Voilà, sur GBA, c'est pas tout à fait pareil, c'est A Link to the Past, Fourth World. Parce qu'en fait, il y a deux jeux et un jeu où on peut jouer à plusieurs. Hein. Et il y a certaines choses qui changent, notamment dans le palais de glace, il y avait deux pièces qui n'étaient pas tout à fait pareilles, avec les blocs mis à différents endroits. Je me souviens aussi du boss du monde 7, du monde sombre, du palais 7, qui redonne de la magie quand on a besoin. Dans la version originale, si on n'avait plus de magie au début, on ne pouvait pas le battre sans magie, donc on était bloqué. Là, j'ai remarqué qu'il nous redonnait de la magie parce que j'étais à court de magie bêtement.
Bah, à l'époque, moi j'avais été bloqué à cause de ça parce que j'avais tenté de faire une partie avec le moins de choses possible. Et donc j'avais pas doublé la quantité de magie que je pouvais porter. Et quand j'ai dû l'affronter, j'avais le droit à zéro échec. C'est-à-dire que si je ratais un coup sur le boss, j'étais mort, je pouvais pas le passer, quoi, vu qu'il redonnait pas de magie.
Il faut recommencer tout le jeu, alors j'imagine, et en plus comme il est tout à la fin...
Ouais, non, mais c'était une partie un peu spéciale que j'avais fait ce jour-là.
Il faut prendre les objets et les cartes de cœur, hein.
Non, j'avais tout fait justement pour pas les prendre.
Si c'est le but. Donc d'autres nouveautés, c'était que dans cette réédition, on peut nager sous l'eau, par exemple. Ils ont rajouté des cris de Link... un petit peu différents, qui sont tirés de la version Ocarina of Time, sur 64. Il y a des rochers qui brillent, alors si on donne un coup dedans, ça donne un rubis. C'est une version aussi qui est en 60 Hz, donc un petit peu plus rapide que le jeu à l'époque, ce qui rend le jeu plus difficile.
Je t'arrête. Le jeu à l'époque était en 60 Hz pour les Japonais, les Américains. Il n'y a eu que les Européens qui ont été bridés avec du 50 Hz.
Voilà, comme d'habitude.
Comme pour la plupart des jeux, hein, pour s'adapter à nos télés, en fait.
Voilà.
Ouais. Il y avait un palais supplémentaire aussi dans la version GBA qui est dans la pyramide. Donc il y a un palais bien difficile.
Débloquable uniquement si on a joué longtemps en multi.
Oui, n'est-ce pas Martin?
Oui.
Voilà, donc je pense que tout le monde autour de cette table avait fini Zelda 3 à l'époque.
Presque.
Presque.
Je me suis arrêtée au dernier boss.
Ah ouais, ça c'est... Il faut
oui,
persévérer.
Je sais où. Oui, flagellez-moi, oui, non, je vais le refaire, vous inquiétez pas, je vais le finir.
Je t'encouragerai dans ce sens, hein, parce que franchement, ça vaut le coup. Et puis s'arrêter juste à la fin, hein, un petit peu dommage.
Je sais.
Bah écoutez, moi je vous propose qu'on continue ce petit débat tout à l'heure avec Lionel dans le Reloaded. En attendant, eh ben, on va s'écouter la musique des donjons et du sanctuaire, toujours composée par Kondo Koji. Et on se rejoint tout à l'heure, à tout de suite.
M57, un maximum de musique.
Un maximum de musique.
M57 Radio.
It's and move.
It's and move. We'll be right back.
Vous êtes toujours à l'écoute de M57 Radio, toujours dans Try Again, toujours pour parler de The Legend of Zelda A Link to the Past. Et avant de donner la parole à Lionel, je vais tout simplement faire quelques précisions sur ce qui a été dit avant, parce qu'on a des réponses à apporter à des questions ouvertes que nous avions. Alors, premièrement, dans Zelda 1, il n'y avait pas de carte de cœur, mais des réceptacles de cœur, qui donnaient visiblement un cœur entier. Merci Lionel pour cette information que tu nous as donnée hors antenne, que je retransmets rapidement à nos auditeurs. Et enfin, j'avais de mon côté une toute petite réaction à faire encore sur les ajouts de la version Game Boy Advance, de la réédition du jeu. C'était pour signaler qu'en plus du palais supplémentaire, ils ont aussi mis une quête supplémentaire pour avoir une nouvelle attaque, pour être encore plus puissant. Et donc ceci se débloque avec le troisième forgeron. Donc il y avait des ajouts vraiment bien dans la version Game Boy Advance. Et pour finir sur une note de détail, mais que je trouve relativement importante, ils ont changé la manière dont sont comptabilisés les continues.
Ah oui, oui, j'avais remarqué.
Voilà, voilà. Tu peux nous expliquer ça? Tu t'en souviens ou pas?
Oui, c'est-à-dire qu'on peut sauvegarder quand on veut dans le jeu, et ça comptabilise pas un continu en plus, contrairement à la version Super Nintendo.
Voilà, la version Super Nintendo, en fait, à la fin du jeu, il donnait les différents lieux, et il donnait des chiffres, et ces chiffres-là, c'est le nombre de crédits utilisés durant le jeu. Et il comptait comme crédit le nombre de sauvegardes et le nombre de fois on était mort sans avoir de fée. C'est-à-dire que pour one créditer le jeu, il fallait le faire d'une traite. Alors que sur GBA, ils ont mis une sauvegarde qui ne compte pas de crédit.
D'accord, donc on se rapproche un peu plus déjà de la version sur Link's Awakening qui avait repris un peu ce principe-là.
Voilà,
quoi.
Tout à fait. Voilà.
Autre chose, tu disais le troisième forgeron, enfin, oui. Soit c'est bûcheron en fait.
Ça, c'est un bûcheron. Ah oui, c'est bûcheron. Ouais. Les forgerons, c'est pour les PC ou autre chose. Merci
ceux
de me corriger.
Le voilà.
Bon, sur ce, on a quand même assez discuté comme ça. Lionel, à toi pour Reloaded.
Donc, c'est vrai qu'il nous a été posé une question puisqu'on avait un peu lancé comme ça nos sujets. Et donc, on avait eu une question qui demandait... S'il y avait une cohérence entre les épisodes en fait de The Legend of Zelda, puisqu'ils portent tous le nom de The Legend of Zelda, et après avec généralement un sous-titre qui indique de quel épisode il s'agit, à part pour le premier qui était The Legend of Zelda tout court.
Forcément.
Et du coup, bon, bah, c'est vrai qu'on s'est un peu renseigné, enfin j'ai un petit peu regardé, et il y a effectivement des gens qui débattent de ça. Depuis déjà un petit moment sur le net et ailleurs, et qui ont donc essayé de mettre en place une certaine chronologie des épisodes, tout en sachant que ces chronologies ne sont pas forcément validées par Nintendo du tout. Donc je vais pas forcément aborder le sujet comme ça, mais on va dire qu'il y a effectivement des épisodes qui se suivent, donc qui sont des suites plus ou moins avérées. On notera par exemple, je sais pas, Majora's Mask, qui est une suite plus ou moins directe de Ocarina of Time, où on voit en fait Link qui erre au début de Majora's Mask, qui erre dans les bois et qui tombe sur un monde un peu inconnu, sur une porte qui ouvre vers un autre monde. Et donc il y a comme ça par exemple entre Wind Waker et Phantom Hourglass par exemple sur DS. On retrouve une similitude, puisque bon, bah déjà tout le monde est quasiment submergé, à part quelques petites îles qui émergent à droite et à gauche, mais on se retrouve avec des petites îles et un des modes de déplacement qui est fait en bateau, et donc on retrouve un peu la même architecture, donc on peut penser que ça vient dans la suite, mais rarement dans les épisodes, à part effectivement où c'est avéré entre Zelda Ocarina of Time et Majora's Mask. Il y a rarement de lien direct entre les épisodes.
C'est suggéré en fait.
C'est suggéré.
C'est jamais dit de manière explicite.
On parle souvent au début on a des petits. Par exemple, dans Wind Waker, ça commence en racontant la légende ancienne qui parle d'un héros des anciens temps qui avait protégé le monde. Et puis on se rend compte au fur et à mesure du jeu de certaines choses qui font penser qu'on est dans une suite même à une autre époque.
Mais duquel. C'est ça.
Voilà, donc du coup, il n'y a pas vraiment, en tout cas, c'est pas assumé du tout par Nintendo. Hein, eux ne présentent pas leurs épisodes comme des suites. Ils présentent ça en fait et comme des jeux indépendants plus ou moins les uns des autres, qui reprennent des éléments communs. Donc le héros Link, la princesse Zelda pour la plupart du temps, les schémas de jeu, puisque bon, on se retrouve généralement toujours avec le même, plus ou moins le même gameplay qui a été adapté maintenant sur DS ou même sur la Wii, mais donc on se retrouve avec des histoires complètement différentes, comme si les épisodes n'avaient rien à voir et en fait.
Mais il y a quand même quelque chose à voir, parce qu'on reconnaît quand même
les personnages, des lieux, même si géographiquement parlant, par exemple, on retrouve souvent Hyrule, c'est pas forcément toujours le cas dans certains épisodes.
Alors, géographiquement parlant, il faut savoir que si on se réfère à la notice des jeux, dès le premier, certaines zones sont déjà bien définies. Par exemple, la zone des Zoras, c'est chez les Zoras, quoi. Mm-hmm. Et il y a plein de noms qui ont été repris et en fait que les gens ont connus parce qu'elles ont été affichées à l'écran uniquement à partir de l'épisode N64. Mais genre sur Super NES, il y a déjà les Zoras, sauf qu'on ne sait pas que c'est chez les Zoras. On achète les palmes, quoi.
Tout à fait. Et donc du coup, c'est vrai qu'il y a ce. Il y a toujours, on va retrouver la montagne Cocorico, des fois d'un épisode à l'autre.
Le village
Cocorico d'un épisode à l'autre. Il y a plein de choses qu'on retrouve d'un épisode à l'autre. Mais après, si le jeu est abordé comme, c'est bien le nom l'indique, The Legend of Zelda, c'est une légende. Et pour moi, j'aborde ça sous le principe que, comme toute légende, il y a différentes interprétations. Et que chaque jeu pourrait éventuellement être une facette de la légende Zelda qui est interprétée au fur et à mesure des siècles et des temps par les gens et qui est en fait une histoire racontée, quoi.
Oui, tout à fait.
J'ai une question pour toi à ce sujet-là, alors. On est d'accord que Majora's Mask suit directement Ocarina of Time. Suite à Ocarina of Time, de nombreuses personnes, en fait, ont dit que Zelda 3, donc A Link to the Past, en fait, c'est la suite de Ocarina of Time. C'est-à-dire qu'Ocarina of Time était antérieure. Parce que dans The Legend of Zelda A Link to the Past, on arrive, Ganon est déjà enfermé par les sept sages. Et que ça correspond à la fin de Ocarina of Time. Est-ce que tu es d'accord avec ce point de vue ou pas?
Tout est une question de point de vue. Après, c'est ça le souci, quoi. Moi, personnellement, je vois pas forcément le rapport entre ces deux épisodes personnellement, quoi. Donc pour moi ils sont indépendants. Pour moi, c'est ce que je disais, c'est une part de la légende qui a interprété de manière plus ou moins différente. Après,
oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après, la légende en fonction de ce qu'on a envie de croire, de raconter, peut changer, se modifier. C'est ça qui est intéressant, parce que du coup ils peuvent varier les mondes, les aventures comme ils veulent, quoi.
Bah effectivement, quoi. Ils reprennent toujours la même base, en y ajoutant des choses, en ajoutant des idées, en ajoutant des nouveaux personnages, par exemple, comme dans le dernier opus, on retrouve avec, on a toujours par exemple la princesse Zelda, mais on a aussi une autre princesse qui vient d'un monde un peu obscur. Donc là, par exemple, on peut se retrouver avec un rappel de Link to the Past, puisque il y a aussi une alternance entre les mondes, le monde des ténèbres et le monde de la lumière, en fait, et ça donne on retrouve des éléments communs qui pourraient effectivement laisser penser que on se retrouve avec une même histoire qui est racontée par de manière différente au fil des siècles et qui est interprétée comme on interprète des légendes, les légendes du roi Arthur ou les choses comme ça.
En fait, t'es en train de nous dire qu'ils sont super forts chez Nintendo parce qu'ils ont vendu le même jeu depuis 20 ans, on n'a rien remarqué, quoi.
c'est clair.
Mais c'est pas loin d'être ça, hein. C'est vrai, quand on y réfléchit, on prend le premier Zelda et le dernier qui est sorti. Il y a toujours quelques petits ajouts, quelque chose qui sont... Mais j'aurais presque tendance à dire que dans le premier, tout était déjà là, quoi.
Mais en fait, A Link to the Past, c'est un lien avec le passé. En fait, c'est la jeunesse de Link. Donc, c'est Zelda 3 avant le premier opus.
Donc, toi, ce que toi, tu penses, c'est que Zelda 1 se déroule avant Zelda 3. Et donc,
le contraire.
Tu penses le contraire.
Zelda 3 avant Zelda 1.
Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Que Zelda 1, en fait, c'est la fin. C'est là tu tues Ganon, tu l'anéantis parce qu'il est mort.
Ouais.
Ok. Et donc, A Link to the Past se déroule avant Zelda 1, quoi.
Voilà. Okay. D'où le titre.
C'est vrai qu'on arrive, généralement assez facilement à mettre comme ça 2-3 épisodes bout à bout, à essayer d'élaborer une chronologie. Mais il y a toujours un épisode qui va être là, le vilain petit canard qu'on saura pas où mettre parce que il a rien à voir avec les autres, ou alors il y a
ou
des
dans
éléments.
Dans un épisode, dans un même épisode, il peut y avoir l'élément qui va contredire la chronologie qu'on vient de mettre en place, quoi.
Oui. Ouais, donc c'est pour ça que de mon point de vue, c'est quasiment impossible. Il y a des éléments qui font que, par exemple, dans certains épisodes. Les personnages se rencontrent à nouveau comme s'ils se connaissaient pas. Enfin, je veux dire, on a difficilement la possibilité de vraiment établir une chronologie. Quoi.
Je suis assez d'accord avec Lionel sur le terme légende.
Ouais, l'idéal, ce serait de trouver un calendrier dans le jeu et comme ça, on pourrait se référer. Peut-être dans le prochain Zelda.
Il n'y a aucune année qui est jamais marquée nulle part.
Exact. Ouais. Non, il y a rarement de références temporelles. On parle des temps anciens, on parle de pas mal de choses, mais rarement d'années ou d'époques, quoi. C'est intemporel, en fait, une légende.
Ben écoute, moi je te remercie, Lionel, sur ce joli petit sujet. On ne va malheureusement pas tarder à se quitter. Oui, l'émission dure encore et toujours. J'aimerais juste vous rappeler que nous sommes toujours en partenariat avec culturegames.com, notre partenaire. Merci à eux. On va pas tarder à se retrouver tous ensemble. Je vais laisser un petit tour de table aux gens pour dire au revoir. Alors à toi, Nelly, la première. Honneur aux dames.
Au revoir et puis jouez. Vous aurez la chance de rencontrer peut-être des petits gorons dans les Zelda. Donc ils sont trop mignons. Donc allez-y, jouez.
Au revoir à toutes les geekettes et à tous les geeks, et essayez le jeu, franchement, il en vaut la chandelle.
Voilà, on espère qu'on vous aura donné envie de jouer, donc et à la prochaine.
Moi je vous dis à la semaine prochaine, les enfants. La semaine prochaine, on va se retrouver avec un sujet préparé, je crois que c'est par moi, sur Super Mario Land 2 Six Golden Calls sur Game Boy. Et puis d'ici là, jouez bien, portez-vous bien. Allez, à plus les loulous, et on se quitte avec la magnifique musique du monde des ténèbres dans Zelda.
M57 Radio.
M57 Radio.
M57 Radio.
Génération Prestart. En partenariat avec culturegames.com. Game over.